Alors, Marie-Aimée, tu es coordinatrice du réseau des femmes vivant sous loi musulmane. Qu'est-ce que c'est exactement que ce réseau?
C'est un réseau qui lie entre elles des femmes de pays musulmans et de communautés musulmanes. Et par là, je veux dire des femmes qui vivent dans des pays où l'islam est la religion de l'État, ou bien la religion dominante, ou bien si elles sont dans une minorité, qui ont une loi de statut personnel spécifique à la communauté musulmane. Et ce réseau a pour but d'entretenir des liens entre les femmes d'origine de communautés musulmanes vivant dans ces communautés, parce que nous avons éprouvé et trouvé que nous étions complètement isolées les unes des autres et que par manque de regard sur l'extérieur, de possibilité de comparaison, nous étions entièrement dans la main des hommes et de leur philosophie patriarcale qui, armés de la religion d'un côté et de la culture de l'autre, nous disent c'est comme ça qu'on doit être quand on est dans un pays ou une communauté musulmane. Et pour challenge ça, il nous fallait au moins être en contact les unes avec les autres.
Alors souvent ici, quand on pense musulman, on pense arabe.
Eh bien, actuellement, on peut dire que les femmes arabes sont la minorité des minorités dans le monde musulman, puisque la plupart des musulmans se trouvent en Asie. Le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie, et beaucoup d'autres pays asiatiques arrivent après. L'islam est une religion en pleine expansion depuis ces 3 dernières décennies. L'ensemble de l'Afrique, du nord au sud, est en processus d'islamisation. Et on peut donc dire que le monde arabe, c'est vraiment la minorité, bien qu'il jouisse d'une grande légitimité du fait de ses origines et de son histoire comme berceau de l'islam.
Alors, on a vu effectivement, l'Iran, l'Algérie, certains pays où effectivement le statut des femmes s'est modifié, on peut dire en pire. Est-ce que c'est la réalité que vivent la plupart des femmes dans des communautés ou dans des pays musulmans?
Oui, je pense que dans le monde en général, pas seulement dans le monde musulman, il y a une recrudescence de l'extrême droite et une montée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc, nous n'échappons pas à cette espèce de tendance générale. Et donc, nos gouvernements sont très peu démocratiques, à peu près partout dans le monde musulman. Et un exercice immédiat de leur politique, c'est de s'attaquer aux droits des femmes, les femmes étant vues comme symbole de l'identité musulmane, contre un modèle extérieur qui est souvent le modèle occidental.
Oui, on a l'impression qu'effectivement ce refus de l'occidentalisme passe presque exclusivement par effectivement une action sur la vie privée, donc principalement les femmes.
Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire, nous attendons encore qu'on nous montre un pays qui puisse se dire islamique, c'est-à-dire qui ait une politique spécifiquement islamique, une économie spécifiquement islamique, etc. Tout ce qu'on voit de spécifiquement musulman, c'est ce qui s'attaque aux droits des femmes à travers principalement les codes de la famille ou lois de statut personnel, c'est-à-dire qui régissent une sphère qui recouvre en fait la vie privée, c'est-à-dire le mariage, le divorce, l'accès aux enfants en cas de divorce, la polygamie, l'héritage, etc. C'est uniquement sur ces points-là que porte la spécificité. Et c'est pourquoi nous employons des mots différents en nous employant islam et musulman, et nous disons nous n'avons pas encore vu un pays qui puisse se dire islamique, c'est-à-dire réellement inspiré des principes religieux qu'il prétend appliquer. Tout ce que nous avons vu, c'est des hommes, c'est-à-dire des musulmans, des gens ancrés dans la réalité et qui ont une politique patriarcale envers les femmes comme symbole de leur identité.
Alors, je pense, j'imagine, et on le voit, que des femmes s'organisent pour faire face à cette montée du fondamentalisme, qu'elles s'organisent ou parfois qu'elles agissent individuellement. Et est-ce que le réseau regroupe toutes ces tentatives de révolte, on pourrait dire?
Je voudrais d'abord juste faire un commentaire sur l'usage du mot fondamentaliste. Un certain nombre de femmes qui sont extrêmement croyantes et progressistes et féministes sont exaspérées par le fait qu'on appelle l'extrême droite fondamentaliste. Elles pensent que c'est elles, les théologiennes féministes, qui vont vers le fondement de l'islam. Et donc c'est un terme extrêmement ambigu qui est utilisé de façon très loose, très large et peu précise par les médias. Je crois qu'il y a beaucoup de fondamentalisme au pluriel et qui émergent dans des situations bien différentes, qui ne sont pas absolument calquées les uns sur les autres. Enfin, ceci pour un problème de définition. En ce qui concerne le réseau, nous ne regroupons certainement pas toutes les tentatives de lutte des femmes, mais nous essayons d'en regrouper un maximum et d'avoir accès aux plus petits groupes et aux isolés, partout où nous en avons la possibilité, et partout nous avons l'expérience que l'échange, simplement de se connaître, ça renforce les luttes locales.
Oui, parce que votre action est très centrée sur cet échange, échange d'expériences, échange aussi de vécu. Non, pas seulement, à la fois comme tu dis, parce que ça renforce les luttes locales, mais aussi comme manière d'élaborer une autre grille de compréhension du monde musulman.
Oui, je crois qu'on ne devrait pas avoir besoin de renoncer à sa culture et à ses origines et à ce qu'on est pour accéder à plus d'autonomie. Et que, d'autre part, la question de l'identité est actuellement centrale au discours des fondamentalistes, au pluriel, tous réunis, justement, quelles que soient leurs variations et leurs tendances. Et l'identité est toujours centrée sur les femmes. Ce qui fait l'identité d'un pays ou d'une communauté musulmane, c'est que les femmes restent soumises. Et ça se voit à travers les lois qui sont promulguées, à travers les coutumes qui sont exhumées éventuellement, et d'autres coutumes qui sont supprimées comme étant anti-islamiques parce que favorables aux femmes. C'est assez intéressant à voir ça d'un point de vue par exemple, tout un tas de coutumes en Algérie qui est porté sur les travaux collectifs paysans et qui sont en contradiction maintenant avec le fait que les femmes ne doivent pas sortir de chez elles. Voilà, voilà un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Ce qu'on essaye de faire par rapport à cette identité, c'est de montrer qu'elle est construite et qu'elle est construite par des hommes qui ne sont pas favorables aux femmes. Donc pour montrer qu'elle est construite et donc qu'il est possible de la questionner et de la contrer, nous devons travailler à différents niveaux. D'une part, essayer de montrer que ce qui passe actuellement pour l'islam est une version de l'islam qui est tenue en main par l'extrême droite absolument partout dans le monde, et que les progressistes dans l'islam ont été soit supprimés physiquement, soit empêchés d'avoir une audience et de promouvoir quelque chose d'autre en matière d'islam. Il y a une théologie de la libération dans le christianisme, et il y en a une aussi en islam, mais elle est extrêmement peu connue. Alors, nous travaillons donc avec des théologiennes féministes, d'une part, pour briser ce monopole sur la religion qu'ont les fondamentalistes actuellement, et que toutes les femmes qui ne peuvent pas psychologiquement avoir une position laïque et veulent travailler exclusivement à l'intérieur de l'islam, est au moins une alternative. Ne pense pas que l'islam, c'est forcément ce que les gens d'extrême droite disent. On travaille à un deuxième niveau, qui est celui de la culture, puisque ce qu'on nous donne à avaler, c'est une grosse boule pour être un bon Algérien ou un bon Pakistanais, une bonne Algérienne ou une bonne Pakistanaise, il faut être comme ça. Et en fait, ce comme ça, c'est un mélange de traditions, de religions, et puis tout simplement de politiques actuelles pour juguler les femmes dans un contexte national très précis, dans des crises économiques, etc. Donc comparer de culture à culture. Ce qui est laissé comme marge aux autres femmes, c'est extrêmement important pour pouvoir, à l'intérieur de sa propre culture, dire « mais désolé, pourquoi vous m'imposez ça ?» alors que la voisine a d'autres droits. Pour nous, en Algérie, par exemple, pendant des années, aller en Tunisie, ça a été vraiment éducatif, en plus d'être une bouffée d'air frais, puisqu'on voyait que les Tunisiennes avaient beaucoup d'autres droits que nous n'avions pas. Donc, comparer au niveau culturel, c'est aussi déconstruire quelque chose qu'on nous donne à avaler comme insécable. Et pour finir, ayant défini notre identité contre un certain nombre de dictats des hommes, nous n'avons plus la même crainte de trahir la communauté, trahir la religion, trahir notre pays, trahir tout un tas de choses. Et nous pouvons donc faire le pas et nous joindre aux autres féministes dans le monde, dans leur diversité, et sans avoir besoin de calquer sur quoi que ce soit, et en prenant dans notre propre histoire les sources de notre féminisme, et sans craindre les échanges.
Alors, tu as utilisé ce mot très fort, trahison. Et pour moi, il renvoie effectivement à la période coloniale.
Pourquoi à la période coloniale ?
Dans la mesure où, en tout cas dans le Maghreb, une, entre guillemets, libération des femmes, ou en tout cas peut-être le dévoilement, a été imposé par le colonialisme, et donc ce dévoilement, par exemple, a été vécu, je pense, comme une espèce de trahison à l'époque, et peut-être cette trahison doit être située dans ce contexte.
Oui, mais si on sort de l'Algérie, on voit que c'est beaucoup plus vaste. On voit que tous les projets réformateurs, par exemple celui de Kemal Atatürk, qui n'était pas un projet colonial, mais national et nationaliste, certains projets de Nasser aussi, ont visé au dévoilement des femmes. Et je crois que le voile, dans ce sens, est extrêmement symbolique du fait qu'on voile ou on dévoile les femmes, mais ce n'est pas elles qui le font. Et donc, si on en revient à la question de trahison, je crois que partout, et pas seulement dans le Maghreb colonisé par la France, on fait de l'indépendance des femmes une question de trahison de la communauté ou de la religion ou de la révolution socialiste, par exemple, en Algérie, et que c'est contre ça que la comparaison, l'échange nous aide à construire tout à fait indépendamment et tout à fait au niveau national et même au niveau local les stratégies qui nous permettent de promouvoir une libération des femmes sans se sentir justement en train de trahir. Parce que si les Tunisiennes ont le droit de garder leurs enfants après le divorce, pourquoi pas moi ?
Parce qu'en fait, la loi serait une loi divine. C'est dans ce sens-là qu'elle n'est pas questionnable.
Oui, c'est dans ce sens. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc, montrer les différences d'interprétation de l'islam et les différences culturelles, ça devient crucial pour pouvoir élaborer ses propres politiques. Je vais te donner un exemple. Tout le monde sait que la mutilation génitale des femmes n'est pas coranique. Néanmoins, dans les parties de l'Afrique où c'est pratiqué, et bien que ça soit pratiqué aussi bien sur des chrétiennes ou autres, quand tu nais dans la communauté musulmane, on te fait croire que ça fait partie d'être dans la communauté musulmane. Donc pour une femme du Soudan ou de Haute-Égypte, ou d'autres parties qui pratiquent la mutilation génitale des femmes, aller voir des musulmanes dans des pays où ça n'existe pas, où on n'en a jamais entendu parler, et où elles ont la preuve de visu que ça n'est pas islamique, mais que c'est une récupération d'une tradition locale à l'intérieur de l'islam tel qu'il est pratiqué dans leur pays, c'est fondamental pour pouvoir se défendre.
On a là quand même l'impression, bon, tu as parlé de la montée de l'extrême droite, mais que de plus en plus, à travers cette montée, s'impose un seul modèle, peut-être issu, je ne sais pas, de l'Arabie Saoudite. On a l'impression vraiment que c'est ce modèle-là qui s'impose et que les disparités entre autres locales vont disparaître, vont effectivement s'étioler, mais au profit d'un seul modèle, la femme voilée, même en Afrique noire. Le code de la famille comme il est issu du monde arabe proprement dit.
Oui, on a l'impression qu'il y a un modèle qui se répand, en effet. C'est extrêmement inquiétant pour nous, pour les femmes. Je pense que ça devrait être extrêmement inquiétant pour tous les démocrates, et pas seulement dans le monde musulman, parce que avoir des gouvernements d'extrême droite répressifs, sexistes, etc., je crois que c'est pas bon pour les voisins non plus, c'est pas bon pour le monde en général, et c'est là que je crois l'internationalisme devrait jouer un grand rôle. Et ce modèle, je crois, est visible, comme tu l'as dit, dans les codes de la famille. Par exemple, dans ces 5-6 dernières années, il y a eu des tentatives pour modifier de façon négative ou faire passer dans des pays où ça n'existait pas des codes de la famille extrêmement répressifs pour les femmes. Et je peux citer au hasard l'île Maurice, le Sénégal, le Sri Lanka, le Bangladesh, etc. Sans parler de tous les pays où on passe quelque chose qu'on appelle la charia, mais dont en fait, on peut dire que c'est, je crois que ça n'a plus grand-chose de religieux, c'est simplement une dictature au nom d'une religion. On peut aisément imaginer ça, appuyé par d'autres religions que l'islam. Je veux dire, ce n'est pas une spécificité de l'islam. Et donc, c'est important de désigner ces gens comme des obscurantistes, comme de l'extrême droite, plutôt que par rapport à leur religion.
Alors pour en revenir au réseau lui-même, tu as expliqué vos buts, vos modes d'action, mais concrètement, comment vous faites pour mettre en réseau justement toutes ces femmes, tous ces groupes ?
Nous travaillons à trois niveaux. D'une part, nous avons commencé par des actions de solidarité, c'est-à-dire soutenir les luttes de femmes ici ou là, par des campagnes de signatures, par des échanges de matériel ou par tout ce qu'on pouvait faire à leur demande. Les campagnes de solidarité sont toujours lancées à la demande et jamais décidées de l'extérieur. Parce que c'est à chacune localement de savoir ce qui les sert le plus. Il n'est pas question de faire des choses qui puissent les desservir dans le contexte politique précis où elles se battent. Donc les actions de solidarité, c'est toujours notre priorité. Ça prend des formes très très diverses. La deuxième chose que nous faisons, c'est de l'échange d'informations tout à fait systématique, c'est-à-dire que nous circulons ce que nous recevons des groupes, tous les documents qui nous semblent pouvoir intéresser l'ensemble des femmes vivant dans les pays musulmans, pour leur donner des armes pour leur propre lutte, c'est-à-dire qu'un réseau, ça n'est pas ça n'est pas un parti, ça n'est pas une organisation de forme pyramidale qui dit « voilà la stratégie ». Les stratégies, c'est à chacun de les définir. Mais la connaissance, elle est à partager. Et donc, nous circulons sous la forme de publications, mais aussi sous forme de lettres, sous un tas de formes, toutes les informations qui nous paraissent importantes à connaître pour tout le monde. C'est-à-dire, il s'est passé ci à tel endroit, les femmes font telle analyse de telle situation, elles proposent telle et telle stratégie, de façon à ce qu'il y ait, nous ayons une inspiration les unes des autres, et non pas l'imposition d'une ligne, je crois que ça c'était vraiment important, mais que chacune puisse puiser dans l'expérience des autres de quoi démarrer des choses ou renforcer ses propres luttes, et en même temps sache à qui faire appel si on veut plus d'informations sur comment les autres se sont débrouillés dans une situation analogue.
Et là, il y a un bureau central qui reçoit ces informations et les coordonne, les renvoie, fait des petites publications.
Oui, c'est ça. Il y a un bureau de coordination qui est une gigantesque boîte à lettres. Donc, où ça entre et ça sort, et c'est répercuté à des groupes qui, eux, se chargent de traduire dans les langues locales et de répercuter eux-mêmes au niveau national ou local. Et la troisième sorte de choses que nous faisons, ce sont des projets collectifs. C'est-à-dire, nous avons des plans d'action depuis 1986. On en a eu un en 86, un en 90, qui nous mène jusque fin 93, dans lesquels nous décidons ensemble de faire quelque chose qui nous intéresse toutes. Alors en 88, on avait décidé que notre première action collective, ça serait un programme d'échange pour que les femmes puissent voir de leurs yeux, vivre la vie dans une autre communauté musulmane, et donc non pas lire seulement sur la diversité, mais en faire l'expérience. Et passer d'une connaissance livresque à une vie où, par exemple, on peut sortir quand on était enfermé, où on peut voyager quand on ne pouvait pas voyager, où on rencontre des femmes qui ignorent tout de la mutilation génitale des femmes, alors que c'est pratiqué dans sa propre communauté, en tant que chose qu'on doit faire quand on est musulman. Donc ce programme d'échange, nous l'avons exécuté en 88, en essayant de créer délibérément des chocs culturels, de façon à ce que les femmes voient quelque chose de vraiment différent et vivent 3 mois des choses vraiment différentes. Pendant 3 semaines avant, nous l'avons préparé ensemble, c'est-à-dire que chacune des participantes a été une personne ressource pour les autres et qu'il y avait ce procédé de cross-fertilization de l'une à l'autre. Ensuite, nous avions fait venir des personnes ressources de l'extérieur du groupe des participantes, avec un grand souci de leur présenter une diversité d'approches. Par exemple, nous avions fait venir une théologienne féministe, nous avions fait venir une marxiste, et nous avions fait venir une femme qui se bat contre le patriarcat et dans la ligne antipatriarcale depuis longtemps. Et ces femmes sont restées une semaine entière avec les participantes, a bien montré qu'on peut attaquer le problème sous des angles vraiment très différents et d'autres encore. C'est-à-dire c'était là encore fait pour ouvrir et pas pour proposer une solution. Et la 3e semaine de cette préparation, les femmes sont allées voir beaucoup de groupes de femmes à Genève, y compris des choses qui n'existent pas encore chez nous et dont il est très important de planter les graines dès maintenant, c'est-à-dire elles ont vu des gens qui s'occupaient de centres pour les femmes violées, de réception de femmes victimes de l'inceste, elles ont vu des groupes de lesbiennes, elles ont vu beaucoup de choses peut-être plus classiques, mais aussi ces choses-là. C'est-à-dire que, pour répondre à ce que tu suggérais tout à l'heure, il n'est pas question de s'enfermer sur soi, mais de se donner les moyens à l'intérieur du monde musulman, de s'ouvrir à l'ensemble du monde sans avoir l'impression de trahir. Et donc, connaître les problèmes des femmes en Suisse et la façon dont elles traitent ces problèmes, c'était aussi essentiel à la formation générale avant d'aborder les 3 mois sur le terrain. Nous avons fait ce programme d'échange grâce à l'aide d'Isis Wiki, sans qui nous n'aurions jamais pu le faire parce que nous étions un groupe jeune, sans argent et sans expérience sur le plan de l'organisation de ce genre d'événement, qui est quand même assez compliqué puisque ça couvrait l'Asie, l'Afrique, le monde arabe. Et je voudrais donc rendre hommage à Isis Wiki qui nous a laisser entièrement définir le contenu de ce que nous voulions faire de cet programme d'échange, entièrement définir qui nous voulions comme participantes et comme groupe receveur, et qui s'est chargé de toutes les tâches ingrates, c'est-à-dire la logistique et le fundraising. C'était donc ça la première des entreprises collectives. La deuxième, ça a été en 90, quelque chose sur les interprétations progressistes du Coran et surtout les interprétations du Coran par les femmes. Donc là, c'était plus dirigé vers et par des femmes qui sont des croyantes, ce qui est loin d'être le cas naturellement pour toutes les femmes qui vivent dans les communautés musulmanes, dans les pays musulmans, mais avec le souci de ne pas laisser aux seuls fondamentalistes l'accès à toutes ces femmes qui ne veulent pas travailler autrement que dans le cadre de l'islam. Et donc il y avait des historiennes des religions, des théologiennes, tout un tas de gens spécialisés qui se sont organisés en groupe international de travail et qui peuvent plus ou moins maintenant commencer à répondre à nos questions quand on dit « mais enfin pourquoi on a telle loi ou telle pratique ?» et peuvent nous armer dans notre défense par rapport aux élites religieuses qui disent « c'est coranique ». Bon, on commence à avoir des choses à répondre à « c'est coranique ». Et c'est très, tout à fait important que l'on soit croyant ou pas, parce que pour l'instant, le système fonctionne comme ça. On a besoin aussi de ces armes-là. Et notre troisième projet collectif, c'est celui que nous menons actuellement. C'est un projet que nous avons mûri pendant des années avant de nous lancer dedans, parce que c'est un très très vaste projet. On appelle ça femmes et lois, et on veut comparer les lois qui affectent spécifiquement les femmes dans un maximum de pays ou communautés musulmanes, justement de façon à bien montrer la diversité culturelle, de bien montrer également comment les codes civils, la loi d'inspiration religieuse et les coutumes reprises sous forme de lois traditionnelles s'entremêlent au détriment des femmes, alors qu'ils pourraient s'entremêler au bénéfice des femmes si on faisait une autre sélection des interprétations religieuses, des coutumes, et si on avait d'autres gouvernements plus démocratiques qui fassent un autre usage et de la religion et des traditions. Je voudrais juste ajouter là que le projet est déjà lancé et qu'il est à l'œuvre dans 10 pays en Asie et qu'il démarrera en Afrique à partir de décembre et certainement dans une dizaine de pays aussi, et ainsi que dans le monde arabe.